débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Les fortes chaleurs enregistrées en Europe créent des situations de danger. Pour la nature, que la sécheresse fragilise, mais aussi pour les populations qui n'ont pas l'habitude d'être exposées à de telles canicules. Ces épisodes de chaleur élevée deviennent-ils plus fréquents? Ont-ils un lien avec le réchauffement climatique que l'on observe à l'échelle de la planète? Comment s'adapter à cette nouvelle donne climatique et quelles sont les solutions qui sont envisagées pour prendre en compte les conséquences des canicules? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos deux invités de ce soir, que je vous présente tout de suite. Robert Votard est chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes au téléphone. Bonsoir à vous, Robert Votard.
Oui, bonsoir.
Et puis Yann Françoise est responsable de la stratégie énergétique et de la lutte contre le changement climatique de Paris. Vous nous rejoignez dans le studio 31 de RFI. Bonsoir à vous Yann Françoise.
Bonsoir.
Alors, d'abord peut-être ce lien entre canicule et réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut le définir clairement aujourd'hui, Robert Votard?
Alors, en général, on formule la question de la façon suivante. Il est évident que c'est un petit peu difficile de lier un événement unique à un ensemble de, comme le changement climatique qui est un changement lent. Mais ce qui se passe, c'est que la fréquence observée de ces vagues de chaleur a augmenté dans les dernières décennies de façon très claire. Et d'autre part, les modèles simule le climat, montre également que la probabilité d'avoir des vagues de chaleur à l'heure actuelle est bien supérieure à celle qu'on pourrait calculer si l'homme n'avait pas ajouté les gaz à effet de serre.
Mmh. Une forte présomption donc hein, du lien entre les deux phénomènes. Est-ce que ça veut dire que ces épisodes de canicule vont devenir de plus en plus fréquents?
Oui, c'est aussi ce que nous disent les modèles. Aujourd'hui, les modèles nous disent que ces vagues de chaleur vont se multiplier, mais aussi seulement en fréquence, mais également en intensité et en durée.
D'accord. Yann Françoise, quelles sont les conséquences les plus graves qu'on pourrait décrire de ces périodes de sécheresse sur la nature, sur les êtres vivants et notamment sur l'être humain?
Les conséquences, il faut aussi les distinguer entre les deux phénomènes. Les phénomènes de sécheresse, c'est des longues périodes sans pluie, et donc les principales conséquences sont sur l'agriculture, sur une baisse de production, sur une raréfaction de la ressource en eau. Les phénomènes de canicule sont des phénomènes plus extrêmes, comme on vient de voir ces derniers jours, c'est-à-dire qu'il y a des maximums de températures qui sont atteints très rapidement, et là, bien évidemment, ça amplifie le stress hydrique, mais ça amplifie le stress sur la population, et en particulier en ville, où l'effet caniculaire est amplifié parce qu'il crée une bulle de chaleur supplémentaire et les populations les plus fragiles se déshydratent plus rapidement, ont du mal à récupérer la nuit et donc sont de plus en plus vulnérables face à ces phénomènes de chaleur qui, comme a été dit par Robert aussi précédemment, arrivent aussi de plus en plus précocement dans la saison. Une canicule au mois d'août, pas qu'on était habitué, parce qu'en 2003, ça a été un grand désastre. Mais là, on voit que l'an dernier, c'était le 30 juin. Là, on est le 21 juin. C'est de plus en plus tôt. Et donc, les organismes n'étaient pas non plus habitués en France métropolitaine et à Paris, par exemple.
Mmh. Ces grosses chaleurs, finalement, semblent être plus faciles à supporter dans les campagnes que dans les villes. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, est-ce qu'elles sont plus faciles à supporter dans les campagnes que dans les villes? La grande différence, surtout, c'est que la nuit, la campagne se rafraîchit beaucoup plus rapidement que la ville. La campagne est beaucoup moins minérale, beaucoup plus d'espace vert, et le minéral des villes, le béton, l'asphalte, les pierres des immeubles, emmagasinent de la chaleur durant la journée, et la nuit, le soir, le restituent à l'atmosphère. On le voit très bien quand vous êtes sur votre terrasse l'été, vous avez une restitution de chaleur, ça se fait en phénomène amplifié dans les villes où il y a beaucoup moins de végétal, et tout à coup, la température diurne ne redescend pas. Et c'est cette température diurne, quand elle est beaucoup plus basse, qui vous permet une meilleure récupération physique. Mmh. Et entre autres, ces derniers jours, à Paris, il y a eu un record pour cette période-là de température nocturne. On a dépassé les 24 degrés et on considère qu'on est en période de forte canicule au-delà de 31 degrés le jour et 21 degrés la nuit. C'est toujours un concours de deux températures, de jour et de nuit. C'est la nuit que le corps récupère et c'est là qu'on voit si le phénomène caniculaire est amplifié ou pas.
Je reviens vers vous, Robert Votard, et vers ce lien entre le réchauffement climatique et canicule. Comment vous faites pour établir cette corrélation entre les changements climatiques et les phénomènes extrêmes qui restent ponctuels? On vient de le noter avec Yann Françoise.
Alors, il y a deux grands types de moyens qu'on utilise. Ce sont d'abord les observations de température, nous en disposons depuis plus d'un siècle et demi. Malheureusement, les conditions dans lesquelles les températures sont relevées avant 1950 ne sont pas toujours homogènes entre les capteurs et on considère que les températures sont bonnes depuis 1950. Mais les observations ne peuvent pas être le seul moyen parce que finalement elles ne nous donnent qu'un tirage des dés du climat.
Quoi d'autre alors ?
Donc nous sommes obligés d'utiliser des modèles et de grandes simulations climatiques où on fait deux hypothèses, l'une avec des gaz à effet de serre dus à l'origine humaine, l'autre sans les gaz à effet de serre, et on compare les deux simulations. Et on s'aperçoit que on a des différences très fortes aujourd'hui. Voilà.
D'accord. Donc les gaz à effet de serre sont clairement pointés du doigt pour la responsabilité de ces périodes de chaleur extrême, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit.
Oui, très clairement. Je vous donne un petit exemple.
Allez-y.
La vague de chaleur de 2003, une étude a montré récemment que la probabilité qu'elle arrive dans le climat actuel est en fait 10 fois supérieure à celle d'un climat de la fin du XXe siècle. Donc entre la fin du XXe siècle et aujourd'hui, la probabilité de fortes vagues de chaleur a été multipliée par 10.
D'accord. Merci de ces précisions, Robert Votard. Yann Françoise, qu'est-ce qui est entrepris aujourd'hui ou qu'est-ce qui a été entrepris dans le passé pour accompagner ce phénomène et adapter notre environnement à cette nouvelle réalité climatique ?
Oui, vous faites bien de le dire. C'est vraiment une nouvelle réalité climatique. C'est extrêmement difficile pour les villes, par exemple, par rapport à d'autres grands aléas comme les inondations qu'on arrive mieux à percevoir dans le temps et dans la durée. On voit les conséquences qu'il peut y avoir sur le territoire en termes d'infrastructure. Prévenir, anticiper les canicules, c'est déjà extrêmement difficile en termes météorologiques, mais c'est un phénomène lent et latent et qui progresse et qui ne touche pas les mêmes populations au même endroit, au même moment. Donc il y a déjà, quand le phénomène est là, on va dire le côté plutôt curatif, c'est le plan canicule au niveau national qui est redéveloppé dans chaque ville l'adapte. Au niveau de la ville de Paris, il est renforcé parce que l'effet est important, et ça va jusqu'à, par exemple, là, comme récemment, toucher toutes les personnes, et parmi les plus vulnérables, vous avez les sans-domicile fixe, qui n'ont pas toutes les informations, et qu'il faut pouvoir hydrater pendant la journée, comme leur donner des bouteilles d'eau pour rafraîchir le corps, parce qu'ils peuvent être rapidement en hyperthermie. Pardon. De l'autre côté, il y a l'action que peut faire la ville en tant qu'aménageur, pour essayer de diminuer l'impact et le développement de ces îlots de chaleur, pour rafraîchir la ville, entre guillemets, et un des moyens entamés, entre autres, par la ville de Paris et d'autres collectivités depuis une dizaine d'années, c'est d'augmenter la part du végétal à Paris, la part du végétal humide, pour qu'il rafraîchisse la ville. Donc augmenter la part d'espaces verts, d'espaces publics ouverts au public, c'est plus de 70 hectares ouverts à Paris, mais aussi à différents niveaux. Créer des toitures végétalisées, des murs végétalisés, pour rafraîchir la ville, éviter le surstockage de la pierre, de la chaleur de la pierre pendant la journée. Voilà. C'est rafraîchir la ville, faire pénétrer le végétal et faire pénétrer aussi l'humide. Quand vous êtes proche du canal Saint-Martin ou des berges de Seine, vous êtes beaucoup plus rafraîchi qu'au milieu de l'avenue Haussmann, par exemple. Donc l'ouverture, par exemple, des berges de Seine aux Parisiens est une occasion aussi de leur donner un moyen de s'approprier la Seine et se rapprocher d'un espace de fraîcheur en fin de soirée pour pouvoir bénéficier d'un moment important où le corps peut récupérer pendant ces périodes de stress.
Donc la revégétalisation, c'est un de vos moyens d'action, on va dire, pour rafraîchir la ville. Je m'adresse à vous, Robert Votard. Vous pensez que ça va suffire à réellement limiter les conséquences des canicules ?
Mais hélas, je pense que ça ne suffira pas de rafraîchir les villes. Hein. Nous aurons de toute façon ces grands phénomènes de vagues de chaleur. Alors, on pense à aussi d'autres types de mesures, hein, mais qui restent encore à l'état de recherche, hein, comme le par exemple l'étalage de paille hein, sur les champs, etc., des mesures qui pourraient en effet renvoyer un petit peu plus de rayonnement solaire et limiter donc le réchauffement au voisinage du sol. Mais ça reste encore vraiment à l'état de recherche.
D'accord, la ligne se dégrade un petit peu, Monsieur Votard. On va peut-être essayer de rappeler Monsieur Votard pour essayer d'avoir une ligne qui soit un petit peu plus performante. Il parle des campagnes. On va aborder les campagnes dans un petit instant, puisque j'ai face à moi un spécialiste de l'urbanisme. Les villes, c'est ce que j'ai lu dans la documentation qui est préalable à cette émission, représentent 1% de la surface de la planète. Elles consomment pratiquement les 4/5 de l'énergie mondiale et sont responsables, dit-on, de 60% des émissions de dioxyde de carbone qui, on l'a vu, ont une part de responsabilité dans les canicules qu'on connaît. C'est donc bien aux villes d'être actives, d'être en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique, Yann Françoise ?
Oui, tout à fait. Elles ont un rôle, elles ont une responsabilité, comme à l'instar de tous les citoyens des villes, mais elles sont parmi les plus proactives depuis une dizaine d'années dans la lutte contre le changement climatique. Les villes n'ont pas attendu que les grands États se décident, dernièrement, et tant mieux, à la COP21 en 2015 à Paris, pour s'engager dans la lutte contre le changement climatique. C'est le cas de la ville de Paris depuis une dizaine d'années, parce qu'elle a adopté son premier plan climat en 2007, mais il y a toute une fédération de villes de par le monde qui s'engage dans la lutte contre le changement climatique. La maire de Paris en préside l'une d'elles, c'est le C40, qui réunit 91 des plus grandes villes au monde, plus de 700 millions d'habitants, et qui sont véritablement engagés dans ces deux axes. Le premier, réduire massivement leurs émissions de gaz à effet de serre, et si possible les annihiler d'ici 2050. Et le deuxième, anticiper les conséquences du changement climatique, et donc adapter nos villes au futur climat, adapter nos territoires pour protéger nos citoyens, nos habitants, mais aussi toutes les activités générées par les villes. Mmh. Il y a vraiment deux grands axes de travail, comme l'a dit Robert. La première priorité, c'est d'abord réduire nos émissions de gaz à effet de serre, améliorer nos consommations énergétiques, développer les énergies renouvelables, rénover par exemple tous les bâtiments anciens de Paris, avoir une politique de mobilité durable pour faciliter la circulation des transports publics par rapport à des mobilités individuelles plus consommatrices d'énergie. C'est tout un panel d'actions que les villes ont engagées depuis une dizaine d'années et qui s'accélèrent récemment. Et quel que soit l'État, on voit bien là, par exemple, dernièrement, même si le président des États-Unis a décidé de quitter l'accord de Paris, tout à coup, ça a soulevé un mouvement national important des États américains, mais aussi des villes américaines qui sont engagées. Et toutes les villes internationales apportent leur soutien de coopération dans le domaine.
On a retrouvé Robert Votard avec une ligne téléphonique de meilleure qualité, manifestement. On était en train de parler de la responsabilité des villes, d'une certaine manière, Robert Votard, et du danger des canicules. Est-ce qu'il impose ce danger, une politique publique de prévention? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux?
Oui, alors, effectivement, excusez-moi pour la ligne d'abord, mais en effet, donc la ville, on pourra faire des choses dans les villes, comme l'a expliqué mon collègue, bien sûr, mais ça ne suffira pas face aux grands épisodes qu'on va subir en dehors des villes et qui vont toucher les écosystèmes, l'agriculture, voire l'énergie. Hein. Vous savez que il faut refroidir les centrales avec des rivières. Donc, pour y arriver, comme dit également mon collègue, il n'y a pas d'autre solution que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On doit y arriver. Je vous donne un petit exemple,
s'il vous plaît.
Si j'ai deux minutes. On a fait le calcul, toujours pour une vague de chaleur comme celle de 2003, entre un climat qui serait 2 degrés plus chaud que l'ère pré-industrielle et un climat qui serait 3 degrés plus chaud que l'ère pré-industrielle. Vous savez que 2 degrés, c'est ce à quoi les États aimeraient arriver, alors que 3 degrés, finalement, c'est ce qui correspond aux promesses qu'ils ont pu réaliser en 2015 lors de l'accord de Paris. Donc oui. Cette différence est très, très importante. Eh bien, avec 2 degrés de réchauffement, une vague de chaleur comme 2003 apparaîtrait environ un été sur 10 à un été sur 20. Donc ça reste un phénomène rare.
D'accord.
Enfin, en tout cas, peu fréquent. Avec un réchauffement de 3 degrés, eh bien, ça serait un été sur 4. Donc, on voit bien la différence qu'il y a entre les deux. Un été sur 20 et un été sur 4. Mmh. Voilà.
Yann Françoise, est-ce qu'on a des exemples de villes, vous qui jouez la carte de la confraternité des villes, des exemples de ces grandes cités mondiales qui sont bien avancées dans cette course à l'adaptation aux grosses chaleurs?
Ah, il faut voir que c'est pas exactement une course à l'adaptation, c'est que chacun aussi s'adapte par rapport à sa géolocalisation, oui. J'ai envie de dire. Les villes anciennement industrielles du nord de l'Europe, américaines ou japonaises, ont d'abord des programmes effectivement pour fortement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au futur climatique. Les villes, en revanche, autour des deux tropiques et de l'équateur, ont plus actuellement des problèmes d'adaptation déjà au changement climatique, sont beaucoup plus pénalisés par des fortes inondations, des fortes tempêtes, des fortes sécheresses, et donc ont déjà des programmes avancés d'adaptation au changement climatique, parce que ça devient vital pour leur écosystème. Quand vous avez des grands glissements de terrain suite à des grands de pluies, vous devez déjà penser votre avenir maintenant. Donc on est à deux niveaux, si vous voulez, d'avancement là-dessus, mais c'est ça aussi qui est bien dans cette confraternité, comme vous avez dit, c'est qu'on partage nos expériences, certains peuvent faire profiter de leur avance sur la réduction de gaz à effet de serre, et de savoir comment, par exemple, Rome, Cordoue, ont commencé à s'adapter à des températures élevées pour que Paris, Bruxelles, Londres l'anticipent et l'intègrent dans leur politique du futur. Mmh. Parce que s'adapter, ça se fait pas en un an.
Non. Alors Robert Votard, les villes sont, on le voit, aux premières loges, mais les zones rurales souffrent également des périodes de grosse chaleur. Comment ça se traduit et quelles sont les solutions là?
Eh bien, il y a le traitement symptomatique et le traitement de fond. Hein. Le traitement de symptomatique, ça consiste à limiter au maximum les effets de la chaleur. Alors comme je disais tout à l'heure, mais vous n'êtes peut-être pas très bien entendu, mais
si, la paille sur les voilà, champs pour réverbérer
après il y a l'adaptation des cultures aussi et des forêts qui seraient à considérer avec des espèces, des essences plus résilientes à des grandes sécheresses et vagues de chaleur. Avant tout, il y a la réduction des gaz à effet de serre. On ne passera pas au travers de grands épisodes comme ça si on ne réduit pas les gaz à effet de serre.
On comprend bien que ça semble une priorité absolue. Yann Françoise, l'Europe subit ces épisodes de chaleur forte. Ce qui s'observe un petit peu partout sur la planète, notamment dans les zones tropicales et équatoriales, les températures sont en moyenne plus élevées. On n'est pas spécifique à l'Europe, je veux dire, dans ce combat.
Non, c'est pas un combat spécifique à l'Europe, c'est un problème mondial, avec des spécificités en revanche parfois d'aléas qui sont plus puissants, plus forts à certains endroits du globe. Par exemple, vous n'avez pas obligatoirement plus de grand nombre d'ouragans, mais ils sont plus forts. Mmh. Ils sont plus en plus prégnants, on le voit quand ça touche des territoires français extra-métropolitains, mais c'est pas du tout un problème purement européen. C'est aussi un problème qui touche pourquoi beaucoup plus les villes aussi, c'est là qu'il y a aussi beaucoup de population, et donc les impacts sont beaucoup plus importants, et c'est pour ça aussi que les villes ont pris le sujet à bras-le-corps depuis une dizaine d'années.
Mais ce que je veux dire, c'est que les villes tropicales, les villes équatoriales doivent être soumises à des pressions plus fortes encore que celles qui ne sont pas dans ces régions-là, non ?
Tout à fait. Elles sont soumises à des plus fortes tensions, des plus fortes pressions, et elles n'ont pas obligatoirement aussi non plus tous les moyens actuels pour en bénéficier. Mmh. C'est là aussi pour que, dans l'accord de Paris, par exemple, il a été décidé qu'il y ait un fonds d'adaptation qui soit ouvert, financé par les anciens États industrialisés, à hauteur normalement de 100 milliards d'ici 2020, pour favoriser et accélérer l'adaptation de ces territoires tropicaux, équatoriaux, pour les aider à aller beaucoup plus vite et à prévenir l'avenir.
Un petit peu remis en question par la décision du président Trump de se retirer de l'accord de Paris.
Remis en question partiellement, parce que la promesse des États-Unis n'était qu'à hauteur entre 2 à 4 milliards sur 100 milliards qu'il faudrait trouver. Si tous les fonds américains et de fondations s'y mettaient, les 2 à 4 milliards devraient être rapidement pourvus.
C'est ce qui semble se profiler d'ailleurs.
Voilà.
Allez, on n'en dira pas plus ce soir, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous les deux, Robert Votard, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et Yann Françoise, responsable de la stratégie énergétique et de la lutte contre le changement climatique de Paris. Merci également à Florence Ponce qui a préparé cette émission, à Olivier Roux qui la réalise. Merci bien sûr à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver notre conversation sur notre site internet. Je vous invite à le faire, rfi.fr. Bonsoir à tous. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur Radio France Internationale.